Bonjour. Nous allons maintenant aller à la rencontre de deux auteurs, Jean-Marie Michaud et Alan Simon, pour Le Petit Monde des Bugglenose, une bande dessinée pleine de charme, pleine de rêves et de folie, autour d'un petit peuple féerique breton et anglais. Il y a un peu les deux, il y a les deux. Alan Simon, vous avez fait énormément de choses sur ce genre de thème. Vous avez beaucoup travaillé sur Brocéliande, sur les légendes bretonnes et les choses comme ça.
Alors disons d'abord bonjour à tous. Plus simplement, en fait, j'ai toujours été fasciné depuis ma plus tendre enfance par la mythologie celtique au sens large du terme, mais aussi bien avant cela, la mythologie grecque. En fait, il y a beaucoup d'éléments de la mythologie celtique que l'on retrouve dans la mythologie grecque, qui est quand même fondatrice, bien avant la mythologie celtique en réalité. Voilà, faut le dire parce que souvent les Bretons n'osent pas dire qu'on a pioché des quelques idées ailleurs. C'est quand même une réalité. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, j'avais envie vraiment de faire une bande dessinée qui se destine au grand public, donc avec aussi des codes humoristiques très prononcée. Je ne souhaitais pas qu'elle soit lue au premier degré purement. Enfin, encore que c'est possible aussi. Mais le monde imaginaire, en règle générale, pour revenir à votre question, pardon, me semble vecteur, ouvre des tas de portes. C'est un exercice de style qui permet des tas de choses.
Vous disiez, vous faisiez référence aux Grecs. D'ailleurs, dans la Déesse Blanche de Robert Graves, il y a énormément de... Il explique les liens, il explique les livres que je recommande chaudement à ceux qui s'intéressent aux légendaires celtiques et aux mythes fondateurs de nos civilisations européennes. Jean-Marie Michaud, vous n'avez pas énormément travaillé sur ces mythologies-là. Par contre, vous avez travaillé sur la science-fiction avec Serge Lehmann.
Oui, moi j'ai un parcours d'auteur, enfin de dessinateur de bande dessinée plutôt éclectique, puisque j'ai travaillé sur beaucoup de, enfin ce qu'on appelle de genres différents, donc ils vont de la science-fiction au médiéval fantastique, l'historique, et j'ai aussi fait du policier, donc je navigue un petit peu. Alors ma tendance naturelle, c'est plutôt le médiéval et le fantastique. Donc la rencontre avec les petites fées, les Korrigans, tout ça se fait assez naturellement. Après, de culture, je connais beaucoup moins bien parce que je suis plus méditerranéen que breton. Mais c'est vrai que la mythologie grecque, j'ai travaillé dans l'illustration jeunesse sur les thèmes de la mythologie grecque ou viking. Donc de toute façon, ce n'est pas très original de s'intéresser à la mythologie. Hein. C'est un domaine qui nous touche... tous, il n'y a qu'à voir des lieux comme ici où il y a énormément de références. Je pense que c'est un besoin aussi de l'homme contemporain de se raccrocher à quelque chose à la fois d'imaginaire, mais peut-être un petit peu au-delà de ça, qui nous raconte quelque chose dans une civilisation un petit peu déconnectée de toute transcendance, pour dire des grands mots. La mythologie peut nous raccrocher à ça d'une façon un petit peu enfantine ou un petit peu artificielle des fois, mais en tout cas, ludique, donc moi je suis là-dedans aussi. Après, la rencontre avec Alan Simon, ça a été vraiment, oui, de se plonger dans le... Alors, c'est du celtique sans être, enfin, je ne sais pas comment Alan l'a conçu, mais c'est pas du celtique pur au sens un petit peu rigoureux où certains puristes pourraient le prendre. Donc, comme moi, je viens effectivement de domaines très différents, je l'ai abordé avec beaucoup de décontraction, donc... avec mes références à moi en tant que lecteur de ce genre, entre autres, donc notamment des grandes références comme Brian Froude, qui est un grand illustrateur qui avait conçu, enfin qui a été à l'origine du design de Dark Crystal. Donc ça, c'était des références personnelles. Avec bon, plus proche de nous, il y a des éditeurs qui se sont un peu spécialisés là-dedans dans la bande dessinée, avec une surproduction. Donc c'est vrai qu'il fallait aussi se démarquer de ça. Après, graphiquement, bon, là, c'est un petit peu différent. Moi, on fait ce qu'on peut avec ses propres mains. Donc là, ça vient naturellement. On ne peut pas faire comme un tel ou comme un tel. Voilà, pour brosser le...
Bon, il est clair, en effet, que c'est un monde imaginaire, c'est un monde qui s'inspire énormément des codes mythologique, mais qui n'a absolument, en le lisant, on se rend compte qu'il n'a pas du tout l'ambition de reproduire les grands mythes fondateurs, qu'ils soient bretons ou britons.
Non, déjà, déjà, pardon de vous couper, mais il y a une chose que je déteste, puisque mon premier métier, comme certaines personnes doivent le savoir, c'est d'écrire des chansons ou de la musique, et je déteste les reprises. J'ai un problème avec ça, je ne supporte pas cette société où tout le monde reprend pour la unième fois des grandes chansons, des grands auteurs, là je parle musique, hein, pardon, et bon, on reprend toujours quelque chose, on réinvente toujours quelque chose, bien sûr, mais essayer de laisser porter son propre imaginaire pour mieux grandir soi-même et mieux partager avec les autres me semble tellement plus épanouissant que de reprendre pour la énième fois, après, on a bien sûr tous des références qui nous nourrissent, qui nous interpellent, qui sont importantes pour nous. Jean-Marie faisait un clin d'œil à ce très beau film Dark Crystal de 1982 de Jim Henson, ceux qui se rappellent du Muppet Show, bien sûr, puisque c'était la même équipe. Hein. C'est un film qui avait beaucoup compté pour moi aussi.
Et d'ailleurs, Brian et Wendy Froud ne sont pas seulement à l'origine. C'est Brian qui a fait les illustrations, mais c'est Wendy qui a fait les poupées et les marionnettes.
Oui, et c'est vrai que cet univers où la frontière entre l'héroïque fantasy, les mondes enchantés, l'humour, la poésie, qui est omniprésente, qui font pour moi le sceau d'une grande œuvre, parce que cette poésie, elle reste palpable encore aujourd'hui, même si les effets spéciaux visuels de ce film ont évidemment vieilli, surtout quand on voit les codes aujourd'hui des films fantastiques qui sont truffés d'effets spéciaux et d'effets visuels, avec souvent quand même des scénarios très faibles. Ça, moi, je le souligne, parce que c'est mon point de vue tout à fait personnel. Il y a des exceptions, il y a des grands films, enfin bon. Et dans la bande dessinée, pour revenir maintenant au 9e art, j'ambitionnais, alors j'espère ne pas avoir été trop prétentieux, mais de revenir à une BD qui se lit, c'est-à-dire avec du texte. Ceux qui sont un peu décontenancés par les buggenoses, généralement, c'est ceux qui se disent « Oh là là, mais il y a du texte ». Mais oui, mais pour moi, c'est important, parce que les auteurs que j'ai aimés, les bandes dessinées que j'ai aimées, que j'aime toujours, c'est quand même souvent, pas toujours, hein, c'est pas, mais des bandes dessinées avec une histoire, une intrigue. Donc là, quand on lit le tome 1 des buggenoses, j'imagine qu'on doit se dire « Oh ben c'est drôle, c'est sympathique. En réalité, il y a vraiment une trame qui va se développer au fil de cette trilogie. On essaie d'installer, enfin j'ai voulu qu'on installe un univers et grâce au talent graphique de Jean-Marie, parce que c'est quelqu'un qui fait qui sait dessiner beaucoup, beaucoup de petits détails. C'est très riche, c'est foisonnant, et ça c'est important aussi, non pas pour que le lecteur en ait pour son pognon, mais parce que pour moi c'est aussi un signe de richesse et de travail.
C'est d'autant plus intéressant que justement le 9e art est ce qui permet de cacher des détails, de jouer justement avec la foison et de surprendre le lecteur. Ah tiens, mais je ne l'avais pas remarqué ce truc-là.
Ce qu'on lit en deuxième ou troisième lecture, qu'on voit.
Oui, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure, hein, parce que c'est vrai que quand le projet est arrivé, comme souvent il arrive un peu par hasard entre les mains de... Enfin, la rencontre entre le scénariste et le dessinateur se fait la plupart du temps par hasard ou par des opportunités qui se créent. Donc on ne se connaît pas forcément. Donc évidemment, ça peut créer un petit temps d'adaptation entre les deux auteurs, mais ça crée aussi une grande richesse. C'est-à-dire qu'en fait, chacun arrive avec tout son bagage. Moi, j'ignorais totalement tout d'Alan Simon. Je l'ai découvert petit à petit. Mais ses références, le fait qu'il vienne du monde de la musique, du monde de un peu celtique. Et moi, de mon côté, j'arrive avec mon propre vécu, entre guillemets, quoi, de dessinateur, d'amateur de BD. Et finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la gestation de l'album, c'est ça qui fait, ou qui fera, ou qui ne fera pas d'ailleurs, mais qui fait l'originalité et puis la singularité du bouquin qui est fini et qui est toujours surprenant. Moi, je suis le premier surpris de ce que j'ai fait, quoi, parce que les trilogies précédentes, c'était complètement différent du fait du mariage. C'est ça qui est riche dans la bande dessinée, c'est qu'on se remarie plusieurs fois et que chaque fois, ça fait des enfants complètement différents, quoi. Mais en restant soi-même. Donc c'est dans le sens où on peut se considérer, peut-être de façon un peu outrancière, comme auteur, en tout cas pour moi. Mais en tout cas, ça fait vraiment des œuvres très originales du fait de la rencontre de deux personnalités, de deux œuvres. Et là, le côté seconde lecture, le côté... Alors, il faut dire quand même, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et ils sont quand même sans doute nombreux puisqu'il vient de sortir, que l'originalité aussi, c'est qu'il y a, le monde des Korrigans, mais il y a aussi, enfin, des petits êtres, mais il y a aussi le monde contemporain, avec cette rencontre qui fait que bah, ça... C'est ça qui est un petit peu rigolo aussi, quoi. C'est cette rencontre qui fait que on n'est pas dans le sérieux, la mythologie un peu sérieuse, un peu... À la fois on y croit et à la fois on n'y croit pas. C'est ça, je pense, qui peut faire qu'il y a la double lecture dont parlait Alan, voilà.
Oui, il y a vraiment le petit peuple, tout petit, et c'est qui croise de temps en temps ces géants d'humains avec leurs machines, avec leurs... Parce qu'à ce niveau-là, vous avez respecté vraiment un certain nombre de codes mythologique dans les relations avec les humains, l'allergie féerique au fer et à l'acier, par exemple.
Et ce qui était très important aussi, lorsque cette série a été lancée, pour moi, c'était que ça se passe dans le monde actuel, qu'on ne soit pas encore dans un monde intemporel ou dans un monde imaginaire. C'est un monde imaginaire, bien sûr, mais ça se passe aujourd'hui, en forêt de Brocéliande. On a imaginé, donc, que subitement on découvrait un gigantesque cratère qui était donc soi-disant forgé par les Diddlenose, les cousins britanniques des Buggelnose. Alors Buggelnose signifie les enfants de la nuit, c'est du Vanter, c'est du breton de Van, voilà. Mais Buggel s'écrit normalement avec un seul G, il n'y a pas deux G, pour la petite histoire pour les bretonnants. Voilà. Et donc les Diddlenose, les petites choses, on pourrait traduire ça comme ça, nose c'est du breton, bien sûr, la nuit. Donc voilà, mais je voulais que ça se passe dans le monde contemporain. On n'a que pour l'instant des petits clins d'œil à ce monde. On croise, on voit une voie ferrée, on voit une autoroute, on voit des voitures, mais ça reste très furtif pour le moment. Ça sera développé, j'espère, dans la seconde trilogie. On n'est pas rendu là. Si tout va bien, on verra. Mais pour l'instant, il faut d'abord implanter un univers, etc. Mais il fallait que ça se passe dans le monde actuel. J'y tenais beaucoup parce que je suis toujours un peu... Il y a eu tellement de séries, on a vu tellement de choses déjà avec des méchants dragons, des grosses créatures. J'avais vraiment besoin qu'il y ait un lien avec notre monde actuel.
Et Jean-Marie, il y a aussi à certains moments des différences de dessin où tu as l'air de t'être amusé, par exemple, quand on parle du passé, du passé légendaire, des relations entre les Buggles et les Diddle. Là, il y a ce côté manuscrit médiéval.
Il y a une double page où là, je me suis lâché effectivement. Où c'est la double page où on raconte justement la mythologie, l'archéologie de l'histoire des Buggles et des Diddle. Et là, c'est assez naturellement que j'ai pris le parti donc de reprendre la tapisserie de Bayeux, tout simplement. Donc, c'était vraiment très tentant vu, vu le...
De très loin.
Mais on est aux Utopiales, c'est normal qu'on ait une technologie assez
On n'a pas droit aux diapositives. Voilà.
Je suis désolée, je n'ai reçu l'album que très tard. Si je l'avais eu le mois dernier, j'aurais pu scanner quelques pages et pouvoir vous montrer quelques images, mais malheureusement, ça n'a pas été possible.
Mais je pense que c'est des images qui sont bien à regarder dans l'intimité chez soi, sur le livre.
Tout à fait.
Peut-être sur grand écran, ça aurait été...
c'est truffé de détails. Jean-Marie a rajouté plein de petits détails. Vous verrez, il y a même un jeu de Monopoly qui est là. On se demande ce que ça vient faire, mais vous verrez, ça a toute sa saveur, je vous le garantis. Et l'esprit de tapisserie de Bayeux qui est quand même extrêmement ambitieux, parce que c'est très compliqué, ça paraît très simple cette lecture comme ça, mais je peux vous assurer que vu le texte que je lui avais fourni, c'était en plus une prouesse. Mais j'avais envie de faire ça parce qu'en fait je pensais à l'origine simplement à un vieux classique de la bande dessinée que vous avez tous lu, c'est le Sceptre de Tokar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une espèce de double tapage, si je me souviens bien. Voilà.
Le Reculé avait fait quelque chose d'un petit peu similaire dans son Merlin.
Oui, tout à fait. Oui, c'était dans ma tête aussi quand j'ai fait la tapisserie de Bayeux. Je me suis rappelé et j'ai retrouvé les albums où il y avait ces dessins très très simplifiés qui rappelaient Voilà, donc moi je me suis collé à la tapisserie de Bayeux. Donc ma coloriste Sophie, mon épouse par ailleurs, a fait aussi des teintes qui rappellent cette espèce de monochrome pour que ça ressorte un petit peu dans l'album et puis que ce soit bien intégré de façon esthétique. Voilà, c'était vraiment...
Mais d'ailleurs, le travail de couleur est assez impressionnant pour ça, parce que selon les ambiances, selon les lieux, selon les actions, les couleurs fondamentales, les couleurs, j'ai pas le mot, changent.
Oui, bah, y a eu un travail là important. Donc là, moi, c'est une nouvelle collaboration, enfin, qui avait débuté sur d'autres albums, mais là, qui a été vraiment... mise en œuvre, puisque j'ai repris donc ce qu'on appelle une technique traditionnelle au trait noir, et j'ai confié la couleur donc à Sophie, qui a fait un travail sur donc avec les techniques actuelles de PAO, mais justement pour essayer de retrouver des ambiances. Donc là, la gageure, c'était de trouver à la fois quelque chose d'esthétiquement intéressant avec des teintes plus douces, et puis à la fois, comme c'est quand même une bande dessinée qui s'adresse à un public jeune, il fallait trouver un équilibre avec quand même des couleurs franches. Voilà. Donc ça a été un travail de collaboration. Le trait, c'est pareil. Il fallait trouver... Moi, j'ai un trait assez réaliste par goût, mais en fait, par compétence, le trait un peu simplifié me convient bien. Donc voilà, tout ça se fait un peu dans le travail. Hein. On maîtrise pas tout. Enfin, je pense que tous les artistes, c'est un petit peu ça, quoi. Il y a la surprise du résultat qui est toujours différente de ce qu'on voulait. Si tout était maîtrisé, ce ne serait pas très intéressant, quoi. Donc là, même dans le texte, même dans la façon de travailler, il y a eu des surprises au fur et à mesure. Voilà.
Oui, parce que pour vous expliquer, il y a des parties qui sont des dominantes plutôt rouges, d'autres qui ont des dominantes plutôt bleues, qui symbolisent aussi le froid, qui symbolisent aussi... Une certaine partie de nuit par rapport à d'autres. Et vraiment, l'ambiance passe autant par le dessin, par le texte, que par les couleurs.
Oui, bah, quand on fait une collaboration, quand on sait à l'avance qu'il va y avoir une mise en couleur, toute la difficulté est effectivement de laisser la place à la coloriste de s'exprimer. Donc, du coup, il faut un trait plus simple. Et c'est pas très facile pour moi, parce que la trilogie précédente était en couleur directe, donc où c'est moi qui menais tout. Et là, volontairement, on avait opté pour ce principe. Donc, c'est très intéressant aussi d'avoir ce type de possibilité de faire des ambiances très, très franches. Voilà.
Mais on a la chance d'avoir la coloriste qui est au premier rang. Elle peut peut-être parler, Sophie.
Venez nous rejoindre.
Mais Sophie.
Allez, venez nous rejoindre, voyons. Ça, je ne savais pas.
Ben voilà, on a un invité surprise. Puis au moins, il y a la parité de garçons, de filles.
Alors, tu nous parles de la couleur, voilà.
Non, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que vous avez magnifiquement défendu mon travail. Je vous remercie. Effectivement, c'est pas toujours facile d'imaginer une ambiance colorée à partir d'un dessin noir et blanc. Donc j'ai essayé de faire des ambiances par page, par tonalité, et effectivement de distinguer les différents univers souterrains notamment, et puis de nuit dans le froid quand ils reviennent en brosse et viande. Alors ça se fait parfois avec des petits... Il y a des échanges qui sont des fois un peu animés entre nous deux, quand Jean-Marie ne voit pas forcément les pages de cette façon. Donc avec un peu de discussion, j'arrondis quand il faut... bon, je reprends les bonnes idées quand elles... évidemment... quand elles sont là, et j'essaye d'adapter ma vision, de faire concorder ma vision avec celle de Jean-Marie.
Mais vous n'imaginez pas la joie pour un auteur, pour un scénariste, enfin un auteur, subitement de recevoir la planche couleur, parce qu'il me les envoyait 5 par 5, les gredins. C'est-à-dire que moi, j'étais là, je salivais. Allô, Jean-Marie, quand est-ce que je vais avoir les 5 prochaines planches? Et quand vous avez déjà la planche, le crayonné noir et blanc, c'est le Graal, bien sûr. Mais alors, quand vous l'avez en couleur, c'est... Et j'étais très très heureux du travail de Sophie. J'ai fait entièrement confiance évidemment à Jean-Marie. Mais au début, je me suis dit, oh là, ça y est, il me place sa femme. on est mal barré, un couple à trois. Mais c'est
merci
pas.
Merci Alan.
mais le talent de Sophie est réel et donc j'étais très content. Voilà, c'était. Et regardez par exemple cette planche que malheureusement j'aurais bien aimé que ce soit en diapo, mais cette demi-page que j'aime beaucoup. On voit le palais des glaces des Bugenos. Alors de très loin vous n'allez rien voir du tout, bien sûr, mais.
Il va falloir aller à la librairie après pour
point de vue graphique,
jeter un coup d'œil.
C'est assez. C'est
oui,
assez
alors sur beau, des pages beau. Comme ça, par exemple, j'ai pris le parti de passer une partie du trait noir en couleur pour le
faire pour, adoucir,
pour adoucir et pour voilà pour faire des plans un peu plus nets, un peu mieux découpés.
Parce que bon, Jean-Marie vous dit que c'est un dessin simplifié, etc., etc., pas réaliste. Bon, c'est vrai pour les personnages. Par contre, pour les décors, pour les ambiances, pour les détails, là, c'est un travail beaucoup plus précis, beaucoup plus réaliste et beaucoup moins simple.
Oui, ben là, c'est le naturel qui revient. Hein. Moi, je suis incapable de ne pas faire de détails. Donc voilà, il faut que ça aille jusqu'au fond de l'arrière-fond. Il faut qu'il se passe mille choses dans chaque vignette. Sinon, j'ai un vieux sentiment judéo-chrétien de culpabilité où je me dis que le lecteur va pas en avoir pour son argent. Donc il faut que je charge, jusqu'à ce que ce soit pas lisible d'ailleurs. Donc la difficulté, c'est de garder malgré tout la lisibilité, voilà, qui est à mon avis la condition sine qua non de toute la bande dessinée fonctionne là-dessus, quoi. Donc il faut jamais perdre de vue Hergé, il faut jamais perdre de vue Astérix, donc, et reprendre, oui, pourquoi, qu'est-ce que c'est qui fonctionne là, toujours cette simplicité, mais en quand même se laissant aller, parce que si on s'amuse pas soi-même, il y a peu de chances que le lecteur s'amuse. Avec le matériel d'Alan, il y a largement de quoi faire, il y a mille choses à dessiner, donc là, il faut trouver l'équilibre, à la fois se laisser aller, puis à la fois... effectivement, privilégier la lisibilité. Mais la lisibilité, je fais très attention à l'aspect de découpage. C'est-à-dire que c'est important aussi le choix des cadrages d'une vignette à l'autre. Ça, c'est ce qui me passionne dans la bande dessinée. C'est ce qui est passionnant dans la bande dessinée. C'est dans quelle mesure une vignette amène la suivante. Donc là, on a des grands, grands, grands maîtres. On a aussi des contre-exemples. Donc il faut voilà, arriver à faire... Et peu importe finalement que le dessin en lui-même, que la vignette soit chargée, si la vignette est bien amenée, je pense que la lecture se fait bien. Et ça vient même de l'amont, c'est-à-dire la façon dont Alan lui-même choisit ses vignettes, puisque finalement le travail du scénariste, c'est aussi le découpage. Ça dépend des couples. Mais en l'occurrence, là, on a travaillé comme ça, de façon assez classique, c'est-à-dire qu'Alan me découpe chaque vignette. J'ai peu à intervenir à ce niveau. À moi de choisir l'angle qu'il me propose des fois, mais je crois que la lisibilité d'une BD, ça vient surtout de là, et finalement assez peu du graphisme. Il peut y avoir un graphisme assez chargé, si le découpage s'est fait de façon fluide, ça c'est très important.
Si le découpage fait sens.
Et si le découpage fait sens, donc après on a discuté un petit peu sur la façon d'amener certaines ellipses, certaines d'histoires parallèles, enfin de deux actions parallèles. Donc là, c'était pareil, c'était un équilibre à trouver. C'est une BD aussi pour les enfants, donc faut pas trop compliquer la narration. Mais en sachant que maintenant, les enfants sont aussi très dégourdis, puisqu'ils voient des films, ils ont l'habitude de ce genre de découpage. Donc là aussi, on a essayé de trouver, de façon un petit peu, voilà, au fur et à mesure, quoi, dans le work in progress, de trouver quelque chose qui soit lisible, contemporain, quoi. Et ce qui était rigolo aussi, c'est que Alan amenait des références BD assez nostalgiques, assez anciennes. Moi, ça m'a permis de revoir notamment quand je lui faisais le reproche d'un texte un peu trop surabondant, de bulles chargées. Alors, il m'a amené des choses de Charlier des années 70. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'on se dit que avant, il y en avait, quoi. Et c'est vrai, quand on prend la BD maintenant, on se dit mais il n'y a plus rien à lire, quoi. Et du coup, c'est rassurant. On se dit, bah, c'est bon, on peut y aller, quoi. Et on a l'impression de tirer vers le haut, quoi. Donc, justement, voilà.
L'autre jour, c'est marrant que tu parles de ça, parce que enfin, l'autre jour, il y a deux, trois soirs, dans mon bain du soir, n'est-ce pas, je me prends une petite bande dessinée qui est, je ne sais pas si vous connaissez une BD, enfin, les anciens vont s'en souvenir. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, Marc Dacier? C'est une BD de chez Dupuis qui date des années 60. C'était un reporter, c'était... C'est pourtant la même époque que Tintin, même un petit peu après.
Mais c'est un dessin un peu plus réaliste.
C'est un dessin très réaliste. Mais alors, la quantité de textes qu'il y avait, et je me suis dit, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oh, mais il y a beaucoup de textes dans ta BD, oh là là, comment est-ce qu'on va dire ça, etc. Et moi, j'ai culpabilisé, je me suis dit, mais j'ai dû faire une BD trop compliquée. Donc j'ai eu peur, j'avoue que j'ai eu peur. J'ai regardé dans ma BD texte que j'avais. Alors, j'ai revu, bien sûr, les classiques. Alors, Astérix, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de textes, quand même, en général, et encore que. Tintin, ça dépend des Tintins. Les Bob de Moore, tout ça, c'est chargé. Alix, c'est chargé.
La bande dessinée des années 70.
Ouais, franco-belge, ouais. Enfin, des années 60-70. 60 surtout.
Oh, 70 aussi.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, et là, je me suis dit, bon, et c'est vrai que je constate un changement d'attitude très net. Parce que je n'ai pas du tout réfléchi, je n'avais pas calculé mon coût en me disant que je faisais beaucoup de textes. Je l'ai fait spontanément, naturellement. Je voulais raconter une histoire, c'est tout. J'ai essayé d'ellipser, on m'a fait des réflexions par-ci, par-là, qui étaient justifiées, donc j'ai coupé des choses, parce que parfois je suis peut-être trop bavard, donc ok, hop, on coupe ci et ça. Mais ça me semblait important de raconter une véritable histoire avec des personnages, qu'on puisse s'attacher à un univers, pas seulement le survoler. Je suis très surpris du changement de... Alors, est-ce que c'est le manga qui a eu entre-temps, la culture manga, une évolution des choses, je ne sais pas.
C'est la culture de l'image.
Mais peut-être, sûrement,
c'est,
oui.
Je crois qu'il y a vraiment une culture de l'image où, à un moment donné, on a commencé à dire, à enseigner que c'est l'image qui devait dire les choses et non pas le texte. Et donc, on a mis de moins en moins de textes et de moins en moins de scénarios.
C'est pour ça que la chanson française est devenue aussi mauvaise, alors. J'ai compris, ça y est. Excusez-moi, il me fallait un peu de temps.
Alors c'est ça qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est justement cet équilibre entre, évidemment, il y a une culture de l'image qui est importante, puisque c'est de l'image, mais il y a le texte aussi. Et ce qui est passionnant, c'est que les débats qui sont comme ça, qui peuvent paraître un peu théoriques, un peu conceptuels, voire philosophiques, ils se concrétisent tout de suite avec une problématique très artisanale. Par exemple, dans les Bugle Nose, on a refait, enfin, en l'occurrence, j'ai refait, puisqu'on avait opté pour une écriture manuscrite, donc toutes les bulles sont écrites à la main. J'ai refait 3 fois la typo de l'album, pratiquement en entier, parce que à chaque typo, c'était soit trop petit, comme il y avait beaucoup de textes, il faut que tout tienne dans la bulle, tout bêtement, quoi, puisque contrairement au théâtre ou au cinéma, où la bande-son ne prend pas de place, dans la BD, ce qui est intéressant, c'est que tout se traduit par quelque chose de très, très concret, quoi, très artisanal, il faut trouver la place pour la bulle. Donc j'ai refait 3 fois la typo parce qu'elle convenait pas, elle prenait trop de place ou elle n'était pas lisible, c'était pour les enfants. Donc chaque fois, c'est comme l'option était d'écrire à la main pour des raisons, d'éthique personnelle, ça demande, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque fois, ces débats-là sont très concrets, quoi. Finalement, c'est de l'artisanat, quoi. Il faut se mettre sur la planche, il faut refaire la bulle, refaire la typo, choisir le bon angle, donc tous ces débats un peu philo, un peu conceptuels, c'est quel angle de vue on va prendre, est-ce que cette scène on l'a fait en 3 vignettes, est-ce qu'on l'a fait en 2 vignettes, est-ce que là t'en rajoutes pas trop dans le théâtral. Donc la BD est vraiment très 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 riche, c'est vraiment un médium complètement à part qui est, enfin moi je dis souvent c'est un médium hybride, mais en fait vraiment dans le bon sens, quoi. C'est pas du tout du cinéma, c'est pas du tout de la littérature, et pourtant on est tous fascinés par l'univers que Enfin, par l'imaginaire que véhicule le cinéma. On est bluffé par ne fût-ce que le succès que le cinéma emporte, parce que nous, on est quand même, c'est quand même des beaucoup plus petits marchés, c'est un plus petit public. Et malgré tout, ça a une singularité et une richesse. Moi, pour rien au monde, je changerais ma place pour faire du cinéma, quoi.
Comme on est dans la vitesse, etc., on n'a pas ce plaisir de s'arrêter sur une image, de la détailler, de voir ce qu'il y a caché dedans.
Tout à fait, oui. On est à la fois dans la lecture, donc quelque chose de terriblement intellectuel, abstrait, et puis à la fois on est dans la contemplation de l'image, et on n'est pas dans le choc émotionnel immaîtrisable comme dans le cinéma, où on ne peut rien faire contre l'image qui nous agresse, quoi. On est totalement passif. Là, ça reste de la lecture. Et en fait, bon, il y a eu sûrement des écrits très théoriques, très intelligents là-dessus, donc c'est pas le propos, mais il se trouve que c'est vrai, quoi, qu'on a vraiment une lecture très très riche avec la bande dessinée, avec un panel de genres qui va de Bibi Fricotin aux BD les plus contemporaines, les plus d'avant-garde. Là, on est dans. Il se trouve que nous, on est dans un créneau qu'on va dire enfantin, BD commercial, etc. Mais finalement par goût, quoi, sans, on assume complètement, mais qui est très très riche, même si c'est un créneau plutôt grand public, plutôt voilà.
Oui, c'est grand public, mais c'est pas enfantin, c'est pas c'est ça. Quand même, bon, d'ailleurs, je dis aux personnes qui, comme moi, commencent à avoir du mal à voir de près que les textes, il faut mettre ses lunettes. Hein.
Ah oui, je l'avais dit. Mais par rapport à ce que disait Jean-Marie, en parlant de la bande dessinée et du cinéma, il n'empêche que pourtant, la bande dessinée, surtout depuis 20 ans, est devenue une source d'inspiration monumentale pour le cinéma. C'est fou de voir le nombre de séries. Alors, bon, on peut parler, bien sûr... toute la bande dessinée américaine des années 30-40, bon, les super-héros et compagnie, mais même d'autres bandes dessinées sont de plus en plus adaptées au cinéma. Et souvent, les réalisateurs se servent des bandes dessinées réellement comme un storyboard de base voilà. Bien sûr. Mais...
Et les bandes dessinées de très grands maîtres comme Alan Moore, par exemple, qui lui aussi a fait une bande dessinée très écrite, très...
D'ailleurs, on profite de notre présence aux Utopiales pour donc juste après la conférence, là il y a Spielberg qui va nous attendre parce qu'il pense à une adaptation des Bugglenose, donc c'est une avant-première, donc on va pas traîner, voilà.
Ah oui, c'est pour ça maintenant. On n'a plus rien à perdre, on s'en fout. Spielberg, c'est des millions, vous savez, donc tout va bien.
Mais le fait que le cinéma pioche dans l'univers de la bande dessinée, ça prouve effectivement que c'est que c'est devenu une source de création, ce qui était l'inverse au départ, sans doute, dans la bande dessinée, ou très inspiré par le cinéma. Là, c'est vrai que c'est étonnant de voir que c'est un peu l'inverse qui se produit, quoi.
Ben c'est d'autant plus l'inverse que non seulement on adapte les scénarios et une certaine imagerie, mais on va jusqu'à adapter, à utiliser le graphisme. Comme oui, dans SimCity, par exemple, où...
SimCity, ou le Tintin, ou voilà. Qui essaye d'imiter le...
Où on retrouve le graphisme de la bande dessinée en images mouvantes.
Oui, c'est un petit peu... Mais c'est même, peut-être même un peu artificiel, au mauvais sens du terme, hein, parce que finalement, la bande dessinée, c'est ça sa richesse, quoi. C'est qu'à chaque dessinateur, il y a un graphisme, et c'est ce graphisme qui fait l'univers de la bande dessinée, ce qui n'est pas le cas au cinéma. Donc le cinéma va déployer des moyens énormes pour essayer d'évoquer le graphisme de Hergé ou le graphisme de tel ou tel auteur américain ou de Bilal. Alors ça déploie une énergie folle. Finalement, c'est un peu curieux. Mais bon, voilà, si l'industrie se sert, c'est qu'il y a une raison commerciale. Mais nous, sur notre petite planche de 40 centimètres de côté, c'est vrai qu'on arrive à créer des univers totalement différents et d'une richesse insoupçonnée, insoupçonnable. Et c'est la rencontre avec un univers littéraire, bah c'est vraiment cette richesse qui a développé, quoi.
C'est marrant parce que ça, en même temps, quand j'écoute Jean-Marie, je pense à autre chose qui est liée à ce qu'il vient de dire. C'est aussi à la survie de la bande dessinée après la mort des auteurs et à ce qui se passe dans le monde de la bande dessinée aujourd'hui. On était donc à Saint-Malo, à Quai des Bulles. Et il y avait, je ne citerai aucune série, hein, bien sûr, je n'aurais pas cette indélicatesse, mais des séries que vous avez connues, qu'on a aimées, où on voit l'enfance de, la vieillesse de. Je trouve ça assez terrifiant, je vais être franc. Et finalement, on parlait dans la voiture, parce qu'on avait entendu, alors ce n'est pas un scoop, hein, que comme Hergé, vous savez, va basculer dans le domaine public, Casterman aurait l'obligation... En 2030, ça ressemble à une boutade, hein, mais ça, apparemment, ça n'en est pas une, hein, de faire un nouveau Tintin. En 2030, on sera tous morts, mais bon, on sera très vieux, pas les plus jeunes.
Et c'est Moulinsart qui va râler bien fort, ouais, pas vouloir avoir l'argent que ça va rapporter.
Mais en même temps, je me disais, finalement, je trouve que Hergé a eu bigrement raison d'interdire une suite, parce qu'on le voit sur d'autres séries que vous connaissez, je ne citerai aucun nom, où il y a une suite, ça peut être heureux, hein, je ne dis pas, il y a des auteurs, dessinateurs qui peuvent faire des très belles choses. On peut toujours réinventer une série. Si on a le talent et la foi et la passion, bien sûr, ça c'est évident. Mais ça me paraît souvent très discutable et très difficile.
Voilà. Enfin, ça dépend des séries. Parce
non, on n'en est pas là, c'est le numéro un. C'est tout.
Il y a des séries comme les Spirou et Fantasio, par exemple, ouais, qui depuis le départ changent.
Mais c'est un peu l'exception.
De dessinateurs, changent de scénaristes, etc. Mmh. Et continuent à vivre et à s'adapter à
les nouveaux auteurs ont fait un boulot qui est très beau. C'est vrai, je suis d'accord. Le Tommy et Jory, j'aimais beaucoup d'ailleurs. Moi, ma période préférée reste Franquin et Fournier, quand même. Mais j'ai beaucoup aimé ce qui a suivi. Donc, vous prenez un contre-exemple. Donc, il y en a. Il n'y a pas de règle absolue. Je ne dis pas ça de façon
gratuite. C'est pour ça que je prenais ce contre-exemple-là. Parce que là, c'est une bande dessinée qui existe dans la durée et qui, depuis le départ, enfin, son créateur a été remplacé très vite et de plus.
Mais alors, si j'ai bien compris, sur Spirou, je crois que, si je ne dis pas d'annerie, on en parlait avec Jean-Marie. En fait, ce n'est pas Franquin l'auteur. C'est carrément les éditions. Enfin, ça a été commandité par les éditions Dupuis.
Oui, oui, ce qu'on a appris récemment par Georges Merel de la librairie Aladdin, qui est un puits de science au niveau de la bande dessinée, il nous disait que le personnage Spirou, donc exceptionnellement, c'est un personnage d'éditeur.
Oui.
Voilà. Donc oui. On l'ignorait. Enfin, moi, je reconnais mon ignorance là-dessus. Donc,
et quand Rowell l'a créé, etc., c'était un personnage d'éditeur pour. Pour les journaux, et puis par rapport à Tintin aussi.
Voilà, donc on a appris ça, ce qui est un peu l'exception, effectivement, et ce qui entraîne des choses différentes au niveau des droits d'auteur, etc. Donc c'est pour ça que le phénomène Spirou, avec les auteurs qui le reprennent, est possible et sans problème. Alors qu'avec... bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alan, hein, donc c'est un débat sur l'histoire de la jeunesse, de la vieillesse. Il y a des fois, je trouve que ça fonctionne. Il y a des fois, c'est aussi une preuve d'autonomie du personnage qui fait que il vit sa vie propre, il n'est pas attaché à l'auteur. Donc ça, je trouve ça plutôt réjouissant, parce que les auteurs sont tellement mis en avant, des fois, au détriment de la série. Donc il y a quelque chose d'un petit peu gênant là-dedans. J'aime bien quand la série est plus connue que les auteurs, finalement, si on peut dire, quoi. Après, c'est bien aussi que la BD veuille être reconnue dans l'art avec un grand A. Donc ce phénomène qui fait que les séries sont reprises avec déclinées sous la jeunesse, la vieillesse, bon, des fois c'est un peu ridicule, mais c'est aussi une preuve où le personnage de la fiction devient une vraie mythologie, quoi. Je pense qu'Astérix ou Tintin, ce sont vraiment des mythologies contemporaines qui ont alors après, est-ce qu'elles doivent être reprises ou pas, ça c'est autre chose, quoi.
Ce sont tellement des mythologies contemporaines que, en tout cas pour la génération des gens qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans, énormément de des éléments de ces BD sont devenus des contextes, des concepts sont devenus un bibelot de chez Typhus. Tout le monde sait ce que c'est, par exemple, alors que c'est juste trois cases dans un Astérix.
Oui, oui, lequel? Le piège.
Les lauriers de César.
C'est ça.
Bravo, ouais, bravo, bravo. Voilà.
Je suis en train de réfléchir, je suis en train de dire dans lequel.
Les lecteurs sont plus érudits que nous. Mais c'est vrai au niveau de l'image aussi. Hein, on se rend pas compte. C'était une réflexion. Je crois que c'était Meubus qui disait ça au niveau des vignettes de Tintin. Il expliquait à quel point ces vignettes étaient devenues des. Enfin, il appelait ça des icônes. C'est-à-dire que moi, je me souviens que mon frère, revenant d'un voyage touristique en Thaïlande, m'avait ramené un t-shirt avec une image de Tintin sur le t-shirt. Porté par des Thaïlandais, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que c'est des images qui sont devenues ce qu'on peut appeler des icônes, c'est-à-dire susceptibles d'être. Alors, je pourrais pas bien expliquer, il faudrait demander à Michel Serres la différence entre une image et une icône, mais on imagine la différence, quoi. C'est une image qui se soutient elle-même, et ça, là, c'est la bande dessinée qui nous l'a offert. Hein, donc ça, c'est. Donc quand on est des auteurs, quel que soit notre niveau, on est excité par ça, quoi. On se dit, voilà. Ou des auteurs plus complexes, comme Bilal ou des gens comme ça, ou Druyer, ce sont des gens aussi qui ont apporté un graphisme qui est reconnaissable à milieu, et voilà, qui ont apporté quelque chose qui est moins le cas dans le cinéma, ou même dans la littérature. On peut dire, il y a un style littéraire, bien sûr, mais c'est différent, les mots, c'est plus abstrait, c'est différent. Voilà. Et là, on a vraiment une chance exceptionnelle, quoi. Et on essaye d'en profiter en faisant des bouquins, mais qui soient aussi... Il ne faut pas non plus être trop prétentieux. Il faut aussi rester... C'est ça qui est passionnant, quoi. Rester dans une lecture premier degré, une lecture deuxième degré, puis soi-même essayer de s'épanouir en tant qu'artiste, entre guillemets, si on peut, quoi. Donc tout ça est très, très, très riche, quoi. Très, très riche.
Bien qu'il soit très difficile aujourd'hui, je le souligne pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Il y a quand même 6 000 BD qui sortent par an. Alors, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'éditeurs. Enfin, il y en a beaucoup qui sont cassés la gueule aussi. Parce que la BD, vous savez, elle a fait comme ça dans les années 90, 2000, et puis pouf, ça a commencé à dégringoler. Alors, je ne vous parle pas du disque, parce que j'en viens, donc nous, c'est tout. Mais c'est pas facile de lancer une série, des personnages. actuellement. C'est quand même au-delà du talent intrinsèque ou pas hein, des auteurs. Lancer une série, même si on est soutenu par une grande maison, parce que la Casterman, bon, bah, c'est Tintin, bien sûr, donc, et d'autres grands, très grands auteurs, puisque Bilal, Hugo Pratt, par exemple, enfin, il y a eu beaucoup de beau monde. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout évident. Moi, je suis assez effaré de voir le nombre de choses qui sortent. C'est bien pour la richesse. Mais si vous voyez, on parle d'auteurs classiques tout à l'heure, on parlait des années 60. Mais dans les années 60, la BD, elle était nouvelle. Enfin, il y avait 200-300 séries maximum qui sortaient par an. Maximum. Alors vous imaginez, bon.
Et oui, aujourd'hui, 6000 BD par an.
C'est pas pareil. Hein.
À peu près 30 000 romans.
30 000 romans, ça, je ne savais pas. 30 000 romans par an, ouais, bah oui. Trouver sa place là-dedans, c'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une gageure quand même. Ça fait quand même parcours du combattant parce que déjà pour trouver. Alors moi, si je parle depuis le début, je vais me permettre de faire un petit clin d'œil parce qu'au début, j'avais vendu le projet, si j'ose dire, parce que j'avais envie de le faire, ça me passionnait quand je dis vendu dans ce sens-là, hein, au patron de Casterman, le premier, enfin le dernier patron qui est plus là d'ailleurs, qui est parti, enfin bref, c'est un autre débat. Et pendant un an et demi, j'ai galéré pour trouver un dessinateur qui, pour moi, était capable de remplir le cahier des charges artistiques, c'est-à-dire de faire beaucoup de décors, des détails, de dessiner des animaux, des petits personnages, d'avoir un véritable univers, une véritable richesse, aussi de combler à mon manque d'expérience dans la bande dessinée, puisque moi, c'était ma première BD. Donc, grâce à Georges Méral de la librairie Aladdin, j'ai rencontré Jean-Marie. Donc, ça s'est très bien passé. Ça s'est fait très vite. Hein. Le soir même, en fait, Georges me dit... j'avais été voir plein de gens. L'école Pivot, qui est très bien à Nantes, par exemple. Hein. J'avais été faire un petit tour en Belgique. Puis, je trouvais personne. C'est-à-dire que tous les grands auteurs de bande dessinée, dessinateurs, hein, tous sont pris pendant, finalement, 3 ans, 4 ans. Il y en avait qui étaient intéressés. Il y en avait deux qui ont du talent aussi. Ils m'ont dit, bah oui, en 2000, ça me fait drôle d'entendre ça, mais 2017 ou je sais pas quoi. J'ai dit, non, c'est pas possible, pas 2017, quoi. Donc, on cherchait, etc. Et puis, en fait, bon, à Nantes, dans ma propre ville, donc grâce à Georges Méral, la librairie Aladdin, que je vous conseille vivement, hein, il n'y a pas que les hypermarchés pour la bande dessinée, mais je pense que vous allez dans les petites librairies. Voilà, j'ai rencontré donc Jean-Marie, il m'a dit, voilà, il y a ce garçon, je l'appelle. Le soir même, je fais le forcing, je vais chez lui. Il m'invite à dîner, super, très sympa, tout va.
Ils n'ont pas eu le choix, en fait.
Vous n'avez pas eu le choix, non, ils n'ont pas eu le choix. J'ai pris ma baïonnette, voilà. Et une semaine ou deux semaines plus tard, je ne sais plus, mais il avait très très vite, il avait déjà fait 2-3 planches que nous avons envoyées à Casterman, qui a validé, et on a été signé sur 3 tomes. Mais, je veux dire, mais si je vous raconte ça, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire, parler de l'acte de création, entre le moment donné où on décide de lancer une série parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de raconter une histoire, parce qu'on a envie de partager quelque chose, et trouver les partenaires, que ce soit les partenaires artistiques, les partenaires éditoriaux, puis que la BD puisse trouver son public, c'est quand même réellement aujourd'hui, je mesure combien c'est un parcours de combattant, mais fou, quoi. C'était le cas dans le disque, je l'avais vérifié plusieurs fois, hein, mais j'ai l'impression que la bande dessinée vit aujourd'hui. Elle regarde son âge d'or, elle fait sans arrêt référence à son âge d'or, ce que je trouve bien, mais parfois un peu agaçant, je vais être franc, parce qu'il y a plein de jeunes auteurs de grands talents, bah, parmi les 6000 qui débarquent justement, et c'est comme ça, qui sortent d'école, ou pas d'école d'ailleurs. Voilà, tout ça pour vous dire que j'espère que nos petits buguenos trouveront leur place, mais je suis content qu'on ait été signé sur 3 tomes, parce que ça nous permet d'installer un petit peu l'affaire, vous voyez. On va aller, bien sûr, le plus possible au-devant des libraires, du public, comme on le fait là aujourd'hui. Là, vous voyez, vous êtes un quart de salle, mais c'est très bien, ça nous va très bien. On est là pour lancer le projet, il n'y a pas de souci. Apparemment, la BD, là, d'être pas trop mal accueillie, elle ne se vend pas trop mal pour l'instant, mais c'est quand même assez complexe, quoi, je veux dire. Et puis aussi, autre aspect, parce que je ne sais pas si ça, les gens en parlent, mais alors moi, j'ai aucun complexe là-dessus, je ne donnerai pas de chiffres, hein, mais autant vous dire que la bande dessinée est un métier de crève la faim. Dans le disque, je savais qu'on se faisait toujours avoir par les maisons de disques.
La littérature.
Je l'ai vécu X fois, comme la littérature. Bon. Mais alors, les avances des éditeurs, je suis désolé de vous le dire, messieurs, dames, mais alors, c'est juste incroyable, parce qu'on donne à peine. C'est chaud quand même pour les dessinateurs et les auteurs.
Si je peux voilà. mon point de vue là-dessus, parce que toi, tu viens du disque, de le monde de la musique, peut-être tu as un point de vue neuf et un peu. Peut-être quand on parle de. Quand on se plaint, le discours de plainte n'est pas très intéressant, je trouve. Mais c'est vrai, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les gens de ma génération, donc de 40-50 ans, On a été bercé par les grands auteurs des années 60, 70, et c'était pour nous un métier. C'est-à-dire pour nous, on savait que ces gens-là en faisaient leur métier. Donc on a été, on a rêvé là-dessus. On a réussi ou pas à faire être publié, un premier bouquin, etc. Mais c'est vrai que dans notre tête, on est censé pouvoir en vivre. Et en l'occurrence, la bande dessinée demande un certain temps, en tout cas pour le dessinateur, là, je parle spécifiquement pour le dessinateur, ça demande du temps, c'est-à-dire qu'on doit passer 8 heures sur la planche, 5 jours par semaine. Donc c'est un travail qui a un aspect artisanal assez, assez important, et du coup qui peut être envisagé comme un vrai métier, quoi, une espèce de... C'est pas seulement... Alors autant le scénario... C'est pour ça que la comparaison avec la littérature peut-être s'arrête, c'est-à-dire qu'un écrivain, il peut... Le temps de matériel de taper le texte peut être assez court, enfin il faut quand même y passer du temps. Mais c'est vrai que dans la bande dessinée, on est jusqu'à présent, c'était un travail très artisanal. Donc on s'imaginait qu'on devait être susceptible de pouvoir en vivre, quoi. Donc c'est vrai que à partir du moment où il y a une surproduction, où il y a un embouteillage, où il y a d'autres moyens de diffusion, les choses changent un peu et bon, il faudra s'adapter, tout le monde doit s'adapter. Mais c'est vrai que nous, on a vécu, donc les gens de notre génération, ils ont vécu dans l'idée que, ben, comme c'était un métier, on était susceptible d'être payé à peu près correctement. Donc c'est très étonnant de voir la réaction des différentes générations. Moi, quand je suis arrivé dans le métier, c'était impensable pour les anciens, donc les gens qui avaient 20 ans de plus que moi, de ne pas avoir de fixe, par exemple, à la planche. Or, moi, j'ai jamais bénéficié de fixe, c'était que des avances sur recettes. Mais maintenant, c'est encore pire. Maintenant, il y a des auteurs qui ont 20 ans de moins que moi, qui ne sont pas payés. C'est-à-dire, ils font l'album, ils ne sont pas payés, il n'y a pas d'avance. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de s'adapter. Donc, bon, bah, ils vont y arriver, comme moi, je suis arrivé à m'adapter sans fixe. Mais les choses changent aussi au niveau bêtement financier, matériel. Mais d'un autre côté, le public s'élargit. D'un autre côté, on est invité dans des conférences prestigieuses. Les chiffres de certaines séries explosent au niveau des... Donc, bon, bah, tout ça s'équilibre. Il ne faut pas être dans la nostalgie. Il faut pas être...
Spielberg qui nous attend.
Puisqu'on parlait de ce genre, de ce sujet, que pensez-vous de cette nouvelle philosophie pirate qui considère que non seulement le créateur devrait avoir un autre métier pour gagner sa vie et offrir le plus rapidement possible le fruit de son travail artistique au public, mais qui considère en plus que le droit d'auteur est une rente indue et injuste puisque la culture appartient à tout le monde.
C'est un débat très vaste et puis finalement très délicat, parce qu'on peut tous avoir des points de vue très différents là-dessus. Moi, je ne sais pas trop quoi dire, mais enfin, là-dessus, parce que c'est vraiment compliqué. J'ai évidemment mon point de vue. Bon, regardez les grands auteurs romantiques du XVIIIe siècle, qui sont aujourd'hui le panthéon de la poésie, par exemple, ou de l'écriture, de la littérature, faisaient souvent, pour beaucoup d'entre eux, d'autres métiers, et mouraient parfois dans des conditions pas terribles. Hein. Bon, dans la musique, c'est la même chose. On pourra parler des monstres sacrés, enfin, tout le monde connaît l'histoire de Mozart et de sa fin pitoyable, alors que c'était quand même l'un des plus grands compositeurs de son temps. Bon, là je parle par exemple d'exemples un peu bateaux, mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, quoi. On fait tous plusieurs métiers, quelque part moi je fais plusieurs métiers en même temps, puisque je le fais par passion réellement, parce que j'aurais du mal à faire que maintenant aujourd'hui que de la musique ou qu'écrire des romans jeunesse ou un film, parce que j'ai réalisé un film pas très longtemps. J'aime passer d'un univers à un autre. C'est un peu un luxe, c'est vrai, mais bon, pour l'instant, j'y arrive plus ou moins bien, on va dire. Mais je pense que beaucoup de gens le font parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, bon, faut avancer. On a envie que sa création existe. C'est le prix à payer. Alors après, des fois, on a tant de succès, on se dit, ouais, merde, c'est qu'on voit l'horloge biologique qui tourne. 30 ans, ça va, vous êtes jeune. 20 ans, bon, alors j'en parle même pas. 40 ans, oh là là, 40 ans, merde, 40 ans. 50 ans, tiens, j'ai les cheveux qui commencent à tomber, j'ai plus, etc. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, c'est pas évident, quoi, parce que un artiste, alors on, là, parlons de parler politique deux secondes, mais vous savez, la sécurité sociale pour un artiste, j'en parle même pas. On cotise, ça existe, hein, je vous rassure, mais bon, la retraite, oublions direct. Donc nous, on est amené à créer jusqu'à la fin. Moi, c'est un choix, donc ça me va très bien. Je détesterais me dire que j'ai une retraite qui tombe. Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'effraie.
Mais je crois ça, de toute façon que débat, les créateurs ne s'arrêtent pas à un âge donné.
Normalement, s'ils sont réellement créateurs, oui. C'est Léo Ferré qui disait à l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat. Je pense que l'écriture, c'est un combat. Enfin, c'est un... Quand on aime la bande dessinée, j'imagine que, enfin, je vois bien que Jean-Marie, il est passionné de graphisme. Je le vois pas du tout plus faire de bande dessinée. Ça serait juste impensable pour lui. Moi, je me verrais pas du tout arrêter d'écrire, d'imaginer des univers où je serais très malheureux. Après, bon.
Voilà, moi, il y a énormément d'artistes qui le disent eux-mêmes. Le jour où j'arrête, je meurs.
Voilà, mais enfin, en même temps, il faut aussi être réaliste. On n'est pas grand-chose, donc je ne ferai pas un caprice vis-à-vis des autres. J'ai pas, si ça marche plus, on veut plus de moi. Bah, s'il faut que j'apprenne à faire autre chose, je ferai autre chose. C'est très difficile de se dire ça, mais je pense qu'il faut se le dire. Personne n'est irremplaçable, et surtout pas les auteurs. Enfin, moi, je crois qu'il faut rester aussi très humble par rapport à tout ça.
Oui, par rapport au droit d'auteur, moi, j'ai pas d'opinion. C'est un sujet trop compliqué avec les nouvelles technologies qui arrivent, les moyens de diffusion qui changent. Par contre, voilà, ce qu'il faut, c'est on oscille toujours entre l'image du peintre maudit ou du poète maudit qui va, par principe, parce qu'il est poète, qui va crever la dalle, et l'autre excès qui va être... de se fonctionnariser, quoi, sous prétexte qu'on a, revendiquer un salaire, enfin, qui serait aussi un autre extrême. Donc, on est toujours entre ces deux extrêmes. Il faut trouver sa place, comme dit Alan, de façon humble, en sachant qu'on fait un métier, mais qui est un métier un peu différent des autres. Donc, voilà, c'est ce juste équilibre être plus haut que ses fesses, quoi, si on peut dire, mais aussi savoir qu'on fait quelque chose d'important. Et c'est vrai que dans la mesure où ces créations-là sont récupérées, et on est bien content, par le système commercial, capitaliste, etc., on a aussi tendance à dire, bah, puisqu'on se sert de nous, on devrait avoir des dividendes, quoi. Donc on a une position très, très ambiguë, très ambivalente. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que très vite, on dit des bêtises, quoi. Après, sur les problèmes très, très... juridique sur le droit d'auteur, moi, c'est trop compliqué, ça me dépasse complètement, quoi. Ça nous dépasse complètement, on ne sait pas les répercussions qu'ont nos œuvres, quelles qu'elles soient, sur le marché. On vit un monde complètement fou à ce niveau, donc ça serait vraiment prétentieux d'avoir une idée juridique là-dessus ou concrète, quoi. Mais il faut rester dans le juste milieu entre ces deux aspects des choses. On fait un métier, mais c'est un métier un peu différent, voilà. Et la BD a bien cet équilibre, je trouve, justement. Parce qu'on a à la fois ce côté artisanal, à la fois ce côté créatif, à la fois ce côté très, très populaire, et puis à la fois, on est maintenant reconnu par l'art avec un grand A, donc c'est super. Donc on est vraiment dans une très, très bonne position, très confortable, je trouve. Enfin, très, très propice à être à la fois à l'aise et puis à la fois créatif, quoi.
Alors, il reste 5 minutes. Est-ce que vous auriez des questions? Il faut parler très fort. Ah, il y a un micro.
Oui. Bonjour. Moi, je ne connaissais pas votre BD ni votre travail. Je suis passé du côté de la librairie et en fait, j'étais attiré par le graphisme sur la couverture. Je me suis juste arrêté dessus parce que justement, ça m'évoquait un petit peu Dark Crystal, comme vous l'avez cité. C'est vraiment, on le retrouve. Et j'ai un peu feuilleté l'album. Bien sûr, bon, bah, je ne l'ai pas lu, il y avait tellement de choses à voir. Je voudrais revenir sur la création, un petit peu la genèse, l'histoire. Qu'est-ce qui vous est venu en premier par rapport à... pas que vos influences, mais c'est les personnages ou c'est vraiment une histoire que vous aviez envie de raconter. Et puis, si je peux me permettre, aussi vous demander pourquoi avoir choisi la BD, puisque vous faites de la chanson, vous faites des romans pour jeunesse. Alors pourquoi avoir opté pour la bande dessinée? Parce qu'on dirait que vraiment dès le début, ça a l'air d'être ça votre choix.
Alors, tout d'abord, j'aime beaucoup la bande dessinée. Je viens d'en avoir quelques centaines à la maison. Donc, c'était un rêve d'enfant, tout simplement. Hein. Je pense que ça part de là. Enfin, premier point. Deuxième point, le monde celtique me passionne, mais j'avais envie de rajouter d'écrire une nouvelle histoire, de réinventer une nouvelle histoire sans trop me laisser influencer par les classiques de la littérature celtique ou des contes que l'on peut connaître plus ou moins bien, je dirais plutôt moins que bien en général chez nous, contrairement à l'Irlande où la tradition orale qui existe encore quand même un peu, ou en Écosse, font que certains contes sont encore véhiculés. Chez nous, c'est un peu disparu depuis quelques décennies. Donc j'avais envie de réécrire une nouvelle histoire avec cette ouverture qu'apporte la bande dessinée, hein, la richesse graphique, visuelle. Et donc j'avais envie aussi, suite à mes expériences avec les Britanniques, parce que bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'avais eu la chance avec Excalibur, la trilogie musicale Excalibur, de travailler avec beaucoup de légendes du folk ou du rock britannique. Et j'avais envie d'avoir une dualité entre des personnages on va dire d'origine celtique, bretonne, et des personnages britanniques. Donc de jouer un petit peu sur l'humour, cette espèce de vieille incompréhension que l'on a vis-à-vis des Anglais, qui sont des gens charmants, parfois très sophistiqués et surprenants, avec toute une histoire, toute leur histoire, hein, qui est quand même assez impressionnante. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai mélangé, que j'ai associé dans ma tête, et je me suis dit, il faut vraiment écrire une histoire avec un complot, une intrigue, un vaste complot que l'on puisse comprendre, qui puisse se développer, se dérouler durant 3 tomes. J'avais beaucoup aimé, pour ceux qui se souviennent, dans un tout autre genre, d'une bande dessinée qui s'appelle Balade au bout du monde. Ce journaliste qui se retrouve plongé au Moyen-Âge, dans le monde actuel. Enfin, il y a une espèce de marais un peu nébuleux. Et en fait, c'est un royaume, hein, qui est là. Et je trouvais ça très intéressant parce que la BD se développe, l'intrigue de la BD se développe vraiment sur les 3 tomes. Après, j'avais aussi aimé La quête de l'oiseau du temps dans un autre genre. Donc Le Tendre, bien sûr. Où aussi, finalement, sous un prétexte très humoristique, on retrouve tout un univers... Mais cette BD prend une saveur réellement si on lit la trilogie, enfin pour moi. Et voilà pourquoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais
et contrairement à ce qu'il dit, en fait, si on connaît un tant soit peu l'histoire et la mythologie celtique, il y a énormément de références.
Oui, bien sûr. Vous regardez des choses comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Étoiles. Ça n'aurait pas existé, moi j'en suis, c'est sûr, ils le disent, les auteurs le disent. Hein. Enfin, je parle des.
C'est la légende arthurienne.
C'est la légende arthurienne qui a nourri tout cela. Ce sont des vieux mythes très anciens, fondateurs. Après, les Vikings aussi, on peut pomper là-dessus d'ailleurs un peu plus tard. Mais ça, et en fait, bien avant le monde celtique, le monde grec aussi avait nourri tout cet univers celtique, puisque les Celtes, les Grecs les appelaient les Keltoi, ce qui veut dire les Celtes. Hein, une civilisation qui a plus de 3000 ans. C'était en fait un mélange de peuplades qui s'étaient enrichies eux-mêmes de tas de choses.
C'est l'indo-européen.
C'est la grande migration.
La grande migration, le peuple des chevaux.
Absolument.
Etc. etc. Voilà. Là, je crois malheureusement que le temps qui nous était imparti est terminé. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée.
Et les Buganos sont disponibles. Merci à vous.